Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans cet essai de politique économique, Jacques de Larossière examine la question du déclin français sous le prisme des finances publiques, des idées économiques et du fonctionnement de la décision collective. Ancien directeur général du Fonds monétaire international et ancien gouverneur de la Banque de France, il mobilise une expérience institutionnelle de premier plan pour formuler un diagnostic sévère. Le livre ne propose pas une histoire générale de la France contemporaine ni une étude académique exhaustive. Il constitue un plaidoyer argumenté en faveur de la rupture avec des pratiques que son auteur juge installées depuis plusieurs décennies. Son point de départ est la dégradation des comptes publics, mais son propos déborde la seule dette. De Larossière relie les déséquilibres budgétaires à une culture du déni, à une interprétation contestable du keynésianisme et à un appauvrissement du débat intellectuel. La question du titre reçoit donc une réponse conditionnelle, le redressement demeure possible, à condition de reconnaître les causes structurelles du problème et de choisir des réformes exigeantes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la dette publique comme révélateur du recul de la souveraineté budgétaire. Le noyau du diagnostic repose sur la trajectoire des finances publiques. De Larossière souligne que la dette française a fortement progressé depuis le début des années 2000 et que le déficit durablement élevé réduit la capacité future de décision de l'État. Son raisonnement ne consiste pas seulement à dénoncer un chiffre de dette, il insiste sur le mécanisme budgétaire lorsque les taux montent, la charge des intérêts absorbe une part croissante des ressources collectives, les marges disponibles pour financer des priorités régaliennes, investir ou alléger certains prélèvements se réduisent alors. La dette devient ainsi un coût de fonctionnement du passé, plutôt qu'un levier de préparation de l'avenir. Cette lecture place aussi la question sur le terrain intergénérationnel. Reporter le remboursement et le coût des déficits vers les générations suivantes revient, selon lui, à différer politiquement les arbitrages nécessaires. Le livre conteste donc la croyance selon laquelle emprunter pourrait rester longtemps sans conséquence dès lors que les marchés continuent de prêter. La confiance des prêteurs, le niveau des taux et la crédibilité de l'État ne sont pas présentés comme des acquis permanents. Rétablir les comptes publics apparaît comme une condition préalable au redressement, non comme une mesure technique isolée. Deuxièmement, la critique de la relance permanente inspirée par un keynésianisme mal compris, une des trois servitudes identifiées par auteur, concerne la doctrine de expansion continue de la demande. De Larossière vise moins la pensée de Keynes dans toute sa complexité que son usage politique simplifié face aux difficultés. Augmenter constamment la dépense, le déficit ou le soutien monétaire, il considère que cette orientation peut sembler efficace à court terme, car elle évite des choix impopulaires et entretient une impression de protection, mais elle devient destructrice si elle est appliquée sans tenir compte de la production, de la compétitivité, de la productivité et de la contrainte budgétaire. Une relance financée par déficit ne crée pas automatiquement les ressources durables qui permettront de la rembourser. Elle peut aussi alimenter les déséquilibres si elle soutient une demande qui se porte sur des importations ou si elle décourage la correction des dépenses inefficaces. Le propos du livre est donc institutionnel autant que macroéconomique. La facilité budgétaire procure un bénéfice politique immédiat tandis que son coût est diffusé tardif. Cette asymétrie favorise la répétition des déficits. En rappelant ce mécanisme, de Larossière appelle à distinguer les circonstances exceptionnelles où une intervention publique peut être nécessaire, des habitudes permanentes de dépenses financées par emprunt. Troisièmement, la propagande rassurante et le déni des contraintes économiques. Le livre décrit une seconde servitude, la diffusion de discours rassurants encouragés par le pouvoir public. Cette notion désigne une tendance à minimiser la gravité des déséquilibres ou à présenter leur correction comme inutile, prématurée ou socialement impossible. Pour de Larossière, le problème ne tient pas seulement à une erreur de prévision. Il relève aussi de la manière dont les responsables exposent les choix collectifs. Si le débat public entretient la fiction que les dépenses peuvent augmenter sans arbitrage et que la dette peut être renouvelée sans limite, il rend les réformes plus difficiles lorsque les contraintes deviennent visibles. La transparence sur les comptes publics devient dès lors une exigence démocratique. Elle suppose de montrer ce que finance réellement emprunt, ce que coûte le service de la dette et ce que les déficits retirent aux capacités futures de l'action publique. Cette critique du déni ne conduit pas à refuser toute dépense publique. Elle invite plutôt à poser la question de son efficacité, de son financement et de sa priorité. Le raisonnement est concret, une politique crédible doit annoncer des objectifs compatibles avec les ressources disponibles. À défaut, les promesses de protection se transforment en dépendance accrue aux marchés financiers et en ajustements plus brutaux lorsque la situation se dégrade. Quatrièmement, la liberté intellectuelle comme condition du redressement politique. La troisième servitude est intellectuelle. De la Rossière estime que le politiquement correct peut prendre le pas sur la liberté de pensée et expression au détriment de la discussion sur les causes du déclin. Dans son cadre, cette question culturelle ne constitue pas un détour éloigné de l'économie. Des politiques durables naissent difficilement si certains constats sur la dette, les performances du système public, le chômage ou la qualité d'enseignement deviennent difficiles à formuler. Le livre défend donc le droit de soumettre les institutions à une évaluation critique, même lorsque cette évaluation contrarie des intérêts établis ou des récits consolateurs. Cette position doit être comprise comme une thèse sur les conditions du diagnostic. Avant de choisir une réforme, encore faut-il accepter les données qui la rendent nécessaire et comparer les effets réels des politiques aux intentions affichées. De la Rossière associe la responsabilité des élites au maintien de certaines représentations collectives, ce qui donne au texte une dimension polémique. Le lecteur peut discuter la définition ou étendue de cette servitude intellectuelle. Toutefois, le point central demeure clair, un pays ne peut corriger ses erreurs que si son débat public autorise examen des faits, la contradiction et la reconnaissance des échecs. La réforme économique exige ainsi une réforme des habitudes de discussion. En dernier lieu, renverser la table, une stratégie de rupture avec la gestion au fil de eau. La formule « renverser la table » résume une ambition de rupture plutôt que la défense de simples ajustements comptables. De la Rossière considère que les difficultés françaises proviennent de mécanismes suffisamment anciens et imbriqués pour que des corrections marginales ne suffisent pas. La logique est celle de la cohérence, réduire durablement les déficits implique de revoir les priorités de dépenses, de résister aux solutions monétaires ou budgétaires, de faciliter et de rendre le débat plus lucide. Le livre ne se réduit donc pas à une demande abstraite de rigueur. Il avance une conception de l'État responsable, capable de concentrer ses moyens sur ses missions essentielles et de cesser de financer durablement ses dépenses courantes par la dette. Cette orientation comporte un enjeu politique majeur. Les bénéfices de la discipline apparaissent souvent lentement, tandis que ses coûts sont immédiatement visibles pour les groupes concernés. La faisabilité dépend donc de la capacité des gouvernants à expliquer les arbitrages et à les inscrire dans la durée. Le titre pose une interrogation plutôt qu'une fatalité. Pour auteur, le déclin est réversible, mais cette réversibilité ne résulte ni de la conjoncture ni de annonces symboliques. Elle suppose une décision collective de rompre avec le report permanent des problèmes et avec les justifications idéologiques qui permettent ce report. En conclusion, cet ouvrage intéressera les lecteurs qui cherchent un essai bref et engagé sur les fragilités économiques et institutionnelles de la France, en particulier les étudiants, responsables publics, professionnels de la finance et citoyens attentifs au débat budgétaire. Il sera également utile à ceux qui veulent comprendre pourquoi la dette ne peut être analysée séparément de la qualité du débat public, des choix de dépenses et de la crédibilité politique. Le bénéfice principal de la lecture réside dans la netteté du cadre. Proposé, les déséquilibres français sont interprétés comme les effets liés de pratiques budgétaires, de doctrines simplificatrices et de mécanismes de déni collectif. Le lecteur dispose ainsi de questions concrètes pour évaluer les promesses publiques. Quel financement, quelle efficacité, quel coût futur et quel arbitrage réel. Le livre se distingue parmi les essais sur le déclin français par la position de son auteur, qui a exercé au sommet des institutions monétaires nationales et internationales. Cette expérience donne une portée particulière à son insistance sur les taux, la charge de la dette et la confiance budgétaire. Son ton est plus prescriptif que celui de nombreuses analyses descriptives, il ne se contente pas de cartographier les symptômes, il réclame une rupture. Cette orientation libérale et critique ne convaincra pas nécessairement les lecteurs favorables à une politique budgétaire plus expansive ou à une réponse principalement européenne. Elle offre néanmoins une contribution utile, car elle formule sans détour les présupposés et les risques de la stratégie de facilité qu'elle conteste. Si vous souhaitez soutenir Jacques de la Rossière, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.